fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue aux Utopiales, à une heure assez matinale quand même, pour une conférence dédiée à Philippe K. Dick sous le titre de l'androïde qui écrivait « Hommage à Philippe K. Dick ». Je suis pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Étienne Barillet, qui est spécialiste de Philippe K. Dick, qui vient de sortir le petit guide à trimballer de Philippe K. Dick, qui est chez ActuSF. Norman Spinrad, qui est auteur de science-fiction, on ne présente quasiment plus puisqu'il vient quasiment tous les ans aux Utopiales. Voilà. Daniel Tron, qui est universitaire, spécialiste en, corrige-moi si je me trompe, en cinéma, le lien entre le cinéma et la science-fiction, et particulièrement Philippe K. Dick. Je me trompe pas ?
Littéraire.
Laurent Kessy, qui est auteur, qui a fait quelques papiers sur Philippe K. Dick. Et Arié Kirou, qui a publié deux livres, dont un ABC Dick. Et nous vivons dans un monde, dans les mots d'un auteur de science-fiction. Donc voilà. Philippe K. Dick est mort il y a exactement 30 ans. Il y a eu beaucoup d'actualités dickiennes, pour utiliser un terme qu'on trouve dans la communauté des lecteurs qui suivent Dick, par exemple par Total Recall, qui a connu une adaptation cette année, la réédition prochaine et continue de ses premiers ouvrages et une retraduction de certains avec par exemple une postface de Laurent. Mais ma première question sera toute simple. Comment, pour un profane, on pourrait présenter Philippe K. Dick, puisqu'on parle souvent du phénomène K. Dick, mais pour autant, je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes là connaissent plus ou moins son œuvre, mais est-ce que quelqu'un pourrait se tenter à résumer qui il était ? Tout d'abord. C'est, oui, je sais, c'est dur à 11h de commencer comme ça, mais...
On pourrait dire que Philippe K. Dick, 30 ans après sa mort, fait partie de ces auteurs qui sont des auteurs de genre, qui maintenant sont considérés comme étant des écrivains de littérature générale. Philippe K. Dick est réédité dans 3 volumes dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis. Il voit l'intégralité de ses textes traduits en France. Aux États-Unis, il y a quasiment l'intégralité de ses écrits qui sont disponibles. Pas moins de 5 biographies ont déjà été écrites à travers le monde. Donc c'est d'une certaine façon presque une anomalie. Une telle pérennité et une telle diffusion qui est vraiment sensible au niveau mondial.
À mon avis, Philippe K. Dick, c'est le premier auteur qui a commencé donc à écrire des nouvelles en 52, hein, donc à publier des nouvelles. Il a écrit avant, mais il en a publié à partir de 1952. C'est le premier auteur qui a mis en scène, qui a concrétisé cette idée qu'au fond, tout se passe au cœur de notre imaginaire et qu'il y a un jeu permanent entre le réel et tous nos mondes virtuels, quels qu'ils soient. C'est le premier qui a mis en scène quelque part cette dimension et qui l'a concrétisé dans ses romans de multiples façons. Voilà. Si on devait, à mon sens, résumer l'apport principal de Dick, il est là. Il est dans ce rapport à l'humain et au réel qui était totalement inédit, c'est-à-dire qui sort de la pure science-fiction, qui prend des éléments du fantastique pour mettre en scène le possible impossible d'aujourd'hui. Voilà.
Vas-y, Daniel. Ou Norman.
À mon avis, c'est une autre part de l'œuvre de Philippe Dick. Et ça, c'est l'idée littéraire, mais aussi philosophique, même métaphysique. Il a écrit beaucoup de romans avec le bout de vue première personne multiplexe. Quelques personnages multiplexes comme ça. Et à cette époque, dans les années 50, ça c'est rare. C'est une novelty, particulièrement dans la littérature de science-fiction. même, en effet, la même chose à un autre niveau. Ça, c'est l'idée que la réalité basique n'existe pas. Toute la réalité est la réalité multiplexe.
Et subjective et multiple.
Oui, oui. Et pas, c'est alternative, mais ça n'existe pas en réalité pure et dure, primaire, basic, naturel, tout ça. Et ça, c'est un idée, à mon avis, très profonde de la plupart du travail de Philip Dick. Et la réputation de Phil Dick était fait grande comme ça pour le film, exactement. Autre chose, le Valis et tout ça. Et à mon avis, ça, c'est pas très important, ça. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est à un niveau littéraire et philosophique. À mon avis, Phil Dick est le plus grand écrivain de roman période métaphysique qui a jamais fait un travail comme ça.
Bon, ben, j'ai laissé mes camarades défricher, donc je vais vous être de plus facile. Dick, dans une lettre à Stanislas Lem, se définissait comme un écrivain beat, c'est-à-dire la génération des Kerouac, qui lisait de la science-fiction quand il était jeune et qui a finalement trouvé son succès dans la science-fiction. Mais c'est vrai que dès le départ, on a quelqu'un avec une espèce de double carrière. Il va passer une dizaine d'années, vraiment à plein temps, à essayer d'être édité en littérature générale. Il commence aussi à écrire des nouvelles de science-fiction et finalement, au bout d'un moment, il décide de continuer dans le genre qui, un, peut le nourrir, parce que c'est quand même une notion assez importante chez lui. Et puis, une chose qui est frappante quand on lit dans la continuité, c'est-à-dire depuis le tout premier, qui d'ailleurs vient enfin cette année d'être traduit en français, hein, qui est Gather Yourself Together, en français, aux nations sans pudeur, et qu'on, dès ce premier roman, les bases de cette réflexion philosophique et métaphysique sont là. Il y a une réflexion chez lui qui est constante sur le temps et sur effectivement le rapport entre un observateur et sa réalité. Et là, ce qui est étonnant chez lui, mais c'est un homme de paradoxe, mais ce que je viens de dire à tous les sens possibles du terme, c'est que ce qu'il a quelque part de nouveau ou de révolutionnaire dans la science-fiction, c'est de récupérer les plus anciennes réflexions métaphysiques. Parce que la notion même de métaphysique, c'est cette idée que la réalité échappe à nos sens. Et il va commencer cette réflexion-là dans des romans noirs, sociaux, avec déjà une réflexion sur le sens de l'histoire, avec un côté politique. Et il va, en même temps, il va faire bouger la forme même de son écriture, que ce soit en termes de style, de structure narrative, qui vont évoluer au fur et à mesure de sa propre réflexion. Et il va partir hors du genre, devenir un des auteurs les plus connus ou des plus reconnus par, en tout cas, ses pairs écrivains dans le genre, de manière paradoxale, parce que certains de ses plus grands succès en fait rompent totalement des règles tenues comme étant importantes pour le genre, des règles de cohérence scientifique ou autres, et pour finalement ressortir du genre à la fin de sa carrière. Et aujourd'hui, si on veut prendre ce qu'est dit qu'aujourd'hui, il y a les lecteurs qui vont s'intéresser à cet aspect proprement littéraire de Dick, mais il faut être honnête que la fin de son œuvre ou le début de son œuvre ne sont pas les choses qui ont plus d'influence aujourd'hui. Ce qui a le plus d'influence aujourd'hui, c'est que c'est un des premiers à penser effectivement la manière dont un univers saturé de technologie, qu'on pourrait dire hyper médiatisé, va affecter la manière dont nous percevons le monde et nous percevons nous-mêmes. Et c'est cette question thématique centrale qui peut être ou simplement par des appareils, comme je dis, médiatiques ou par l'Android, qui va être adapté au cinéma. Et en fait, de fait, c'est l'auteur de science-fiction le plus adapté au cinéma. Pour quelqu'un qui se méfie à ce point-là d'Hollywood, c'est assez drôle. Voilà, c'était pas mal comme intro. Non, ça suffit, oui. Non
ben moi, j'ai plus rien à dire, ils ont tout dit, je vais résumer alors. Oui. Non, je trouve, ce qu'a dit Norman est très important. La multifocalisation dont il parlait, la multiplicité des points de vue, c'est un truc très important chez lui, dont il a usé, abusé. C'est devenu un procédé littéraire, donc voilà, c'est devenu un canevas pour lui dont il servait. Je crois que c'est Norman d'ailleurs qui, dans un article, a théorisé le premier cette façon de construire ses récits chez Dick. Je pense aussi que par rapport à ce que tu disais, il est tombé pile dans l'époque où on avait besoin de ça aussi, je pense. Et il était dans la zeitgeist du moment Et cette ouverture sur voilà, les mondes virtuels, nos points de vue multiples, la réalité n'est pas celle qu'on croit, c'était quelque chose qui était dans l'air du temps. Est-ce qui est, si ça explique aussi, je pense, son succès. Il était peut-être un petit peu en avance, parce que, mais voilà, quand Hollywood a récupéré tout ça de façon plus ou moins bonne, ben, avec quelques années de retard, là, on était pile dans le moment où il fallait. Et je pense que cet aspect temporel est important. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Norman quand il dit que Valis et la trilogie divine n'est pas importante. Je trouve qu'en termes d'écriture, il arrivait à un point où vraiment il commençait à ouvrir des portes littéraires. Et j'aurais été très intéressé de voir ce qu'il allait faire après. Moi je trouve ça très intéressant au contraire, la fin de carrière.
Je pense à une chose d'ailleurs, on peut sans problème rapprocher Dick d'autres à l'époque et des pas, notamment Ada Oulharder de Nabokov. C'est ça qui est aussi assez fascinant chez Dick, c'est qu'on peut le rapprocher autant d'auteurs de science-fiction dont il se réclamait complètement que d'auteurs de littérature générale. C'est un auteur de science-fiction dont les deux auteurs favoris en gros sont Heinlein et James Joyce, pour résumer vraiment à gros traits.
Le dernier roman de Politique, c'est Timothy Archer. Je ne sais pas, The Transmigration of Timothy Archer. Je ne sais pas le titre en français. C'est
la Transmigration de Timothy Archer.
Et ça, c'est le dernier roman, après toutes les choses avec Valis et l'exégesis, etc. Et ça, c'est un nouvel niveau, un nouvel tour de Philip K. Dick. Avec un personnage primaire féminin, tout le monde lucide, un effet, pas exactement une vraie histoire, mais près de son relationship avec Bishop James Pike. Et c'est une nouvelle Philip Dick. Et dommage, ça c'est le fin. C'est un... un désastre, en tragédie comme ça, mais ça c'est peut-être un management ou un synthétisme dans des choses qu'il a créé, je crois, 11 romans mainstream en avance de créer les sciences. Je crois que c'est 11 inédites. Et avec Timothy Archer, il fait un mélange de les deux pulsions de son vie et son carrière.
C'est un des créateurs de l'autofiction, en fait.
Oui.
Historiquement, c'est un des premiers, avant même d'ailleurs que le terme ait été théorisé, il en avait déjà écrit.
Ce que dit Norman, oui, le mélange entre la SF et la littérature générale, c'est vrai que c'était une nouvelle voie, Timothy Archer, et ça ouvrait vraiment sur quelque chose d'intéressant. Il y avait déjà eu ça dans un roman, je sais que tu adores, c'est Couler mes larmes, dit le policier, je pense, qui fait déjà cette synthèse. Et qui n'est pas assez connu.
Substance mort aussi, je pense. Substance mort est pas loin. Il y a les trois romans qui sont dans cette logique-là, sont Substance mort, Couler mes larmes, et puis la transmigration de Timothy Archer. Sachant que moi, ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs on retrouve ça chez les derniers William Gibson, c'est que... ça se donne comme des romans réels, réalistes, mais par exemple dans Substance mort, il y a des petits détails. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte d'appareil qui a l'air d'une sorte d'appareil hi-fi du futur, il s'appelle le céphaloscope, ou je ne sais plus quoi. Et il a plein de noms différents à plein de moments, c'est-à-dire qu'on est, c'est comme le complet brouillé. Bon, alors il y a moins ça dans la transmigration, qui est peut-être là pour le coup totalement réaliste, a priori, en dehors du mental, du début à la fin, mais dans Couler mes larmes, qui quand même a une logique, effectivement, où la drogue a un rôle essentiel, parce qu'effectivement, il est dans un autre monde, hein, totalement, et Substance mort, on retrouve finalement ce côté notre présent est un futur. Voilà, c'est-à-dire que c'est il n'y a plus de... Voilà, on n'est plus ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans le présent, on est dans quelque chose qui nous appartient, qui nous parle ici et maintenant. Et ça, effectivement... C'est assez fort et assez inédit par rapport à l'époque.
Ah mais une dialectique fiction-réalité chez lui. Enfin, il a varié sur le même thème à peu près tout le long de sa carrière, même avant d'écrire de la science-fiction même. Si on prend Gather Yourself Together, le tout premier, on est dans une uchronie, voilà, qui se passe dans une enclave américaine en Chine. Donc on a un arrière-plan de science-fiction, mais il s'en fout complètement. Il était très jeune, hein, c'est un roman de jeunesse hein, quand même, mais. C'est pas ce qui l'intéresse finalement dans le récit, il s'intéresse à une espèce de tragédie entre des personnages Voilà, c'est un triangle amoureux, en gros. Et c'est assez étonnant parce que ça fait la relation entre les personnages font exactement penser à ce que faisait Eugene O'Neill en littérature générale au début du siècle, avec des personnages très très, on va dire des masques. C'est vraiment des masques, des types assez assez formels. Et avec à la fin du livre, avec l'arrivée des Chinois, une espèce d'envolée philosophique. Et le moment où vraiment il va faire cette bascule vers la SF, on a Confession of a Crab, les Confessions d'un Barjot, pardon, où là on a la mise en scène d'un idiot qui voit le monde à travers les pulps de science-fiction. Et donc avec déjà, toujours chez lui, un côté apocalyptique. Hein, c'est, il sait que la fin du monde va arriver à telle date, il en est sûr. Il a des preuves. Il voit les signes partout autour de lui. Et ce roman-là, qui va être le seul, du coup, il en était très content à être publié de son vivant en littérature générale. Juste après, on a le maître du Haut-Château. Et là, pareil, on est dans une uchronie. On est dans une uchronie où les Allemands ont gagné la guerre, les États-Unis sont occupés, et on a un des personnages au milieu, on a cette ouverture à la fin, où tout d'un coup, il y a une rupture de niveau de réalité, il passe dans un autre monde, et il passe dans un autre monde qui ressemble méchamment au nôtre.
À Détroit, je crois. Détroit.
Mais qui n'est pas le nôtre. Mais qui ressemble méchamment. On construit un ensemble d'univers, et à chaque fois, il y a quelque chose chez lui aussi qui était, et qui fait en fait cet arrière-fond philosophique, et qui finalement va pas tellement dans le sens de beaucoup de codes de la science-fiction, qui est justement de laisser des fins ouvertes, ou de pas laisser assez de choses au lecteur pour pouvoir reconstruire une fin, ou se dire, ok, la situation elle était là, ça c'est mon point zéro, lui il était dans tel état, et jamais, parce que lui-même va jamais trouver la solution.
Dans Le Maître du Haut-Château, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que comme, je l'ai relu lorsqu'il a été réédité, en fait, bon, hein, tout récemment, et il y a une fenêtre donc vers ce qui semblerait être notre monde. À un moment donné, effectivement, par une sorte de syncope, donc d'un des personnages qui est un agent commercial japonais, hein, qui tombe dans une syncope, qui se retrouve dans notre monde, qu'il trouve absolument ignoble, ignoblissime, avec des voies routières partout, quoi, vraiment une sorte des autoroutes, il ne comprend pas ce que c'est. Et il y a évidemment l'auteur qui serait Philippe K. Dick, qui est l'auteur de La sauterelle pèse lourd. Qui est la mise en scène de Philippe K. Dick lui-même, qui effectivement aurait écrit un livre sur ce qui se serait passé si c'était les Alliés qui avaient gagné la guerre. Et ce qui est assez amusant, ce que j'ai découvert en le relisant pour la troisième fois récemment, c'est qu'en fait, ce qui est proposé comme alternative censée être ce qui s'est passé est totalement fictif. C'est-à-dire que, en fait, que ce soit la situation où les Japonais et les Allemands ont gagné la guerre, ou que ce soit ce qui est censé donner le vrai, à savoir le livre de l'auteur de science-fiction dans son haut château qui est la quête, eh bien, là encore, on croit que le vrai est là, mais c'est peut-être le juste qui n'a rien à voir avec le vrai. Parce que de fait, c'est encore une fois complètement fictif.
C'est un vertige assez inédit quand même qu'il nous propose en nous prouvant que notre monde n'est pas réel. On est en train de lire un livre et il nous explique que nous n'existons pas. Ou si nous existons, nous sommes sans doute le rêve de quelqu'un. Enfin, il nous explique, alors voilà, le monde du maître du Haut-Château n'est pas le réel. Le réel, c'est le vrai monde, c'est le monde du livre La sauterelle pèse lourd, qui n'est pas le nôtre. Et donc nous, on est en train de lire un livre. Et on reçoit, c'est quand même assez, je pense que c'est vraiment assez inédit comme sensation quand on comprend. C'est un vertige science-fictif qui je n'ai jamais vu par ailleurs, quoi.
Si, en philosophie.
Probablement, oui, mais en fiction, c'est quand même...
En fiction, ouais, puis parce que son arrière-plan, par contre, effectivement, métaphysique et théologique, enfin voilà, la sauterelle pèse lourd, c'est l'Ecclésiaste. Et donc, ce qu'on a juste autour, quand on va lire le livre de l'Ecclésiaste, c'est vanité des vanités, tout est vanité, c'est ce passage-là de la Bible. Et donc, on a effectivement l'image de l'auteur. Moi, il y a une page au milieu du Maître du Haut-Château, moi, que j'adore cette page, où on a justement, là on a vraiment une image de Philippe K. Dick, où en fait on lit un passage par-dessus l'épaule, on a la typographie est légèrement différente parce qu'on est en train de lire un passage de La sauterelle pèse lourd. Et du coup, une espèce en creux en fait, et on a une fenêtre sur un autre monde qui nous emmène en fait en profondeur vers quelque chose qui ressemble plus au nôtre, mais qui en fait en est plus éloigné. Et plus ça ressemble à notre monde, plus on est sûr que c'est vrai, plus en fait on se plante. Et il y a toujours ces tensions chez lui qui sont... c'est bon, quoi. Non, quand même, juste, il faut le dire, quoi. C'est quel pied, ça fait plaisir. Et justement, lui ne fait jamais l'erreur d'essayer de... Pour moi, le sens vraiment profond des fins ouvertes chez Philippe K. Dick, qui ont souvent été dit par des auteurs de science-fiction, des critiques à l'époque comme étant des faiblesses, c'est qu'à partir du moment où le fond de sa réflexion... Et lui, c'est pertinemment ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il connaît très bien son Spinoza, il connaît très bien son Socrate. Mais aucun doute, il connaît très bien Descartes. Il y a des passages des androïdes reptiles des moutons électriques. Prenez les derniers chapitres du discours de la méthode, prenez les androïdes reptiles des moutons électriques. Je vous assure que, oui, non seulement il le connaissait, mais je vous assurais qu'il l'avait sous les yeux. Ou alors il a une mémoire absolument incroyable.
Il faut
savoir quand il l'écrivait. Mais. Mais donc, juste pour finir sur ce truc-là, la fin ouverte chez lui, il sait pertinemment qu'il soulève des questions qui sont des questions que le monde occidental, et pas que lui, mais se pose depuis 2000 ans. Donc il n'a pas l'outrecuidance de nous faire une fin fermée qui, dans la logique du récit, serait une réponse à la question. Bah non, il n'est pas stupide au point de penser qu'en 200 pages de science-fiction, il va répondre à ces questions-là. Donc non, il nous entraîne dans cette réflexion-là et il nous emmène plus loin.
C'est sûr. J'avais une autre question qui dérive un peu par rapport au tout le contenu littéraire. Est-ce que le mythe de Philippe K. Dick, la construction, je pense par exemple à la préface que tu as faite dans le guide intrimbalé qui en 10 questions repose les bases de ce qu'est Philippe K. Dick, est-ce que la dimension mythique qu'il a acquise en 30 ans ne contribue-t-elle pas beaucoup au succès et à la redécouverte, surtout en France, de Philippe K. Dick maintenant ? Dans le sens où il y a toute une... j'ai vu par exemple des anecdotes de gens qui me disent « Je ne lis pas de science-fiction, pour autant j'aime Philippe K. Dick » et me parlent de la construction mythique en me disant « Mais cet homme était totalement fou » et n'y a-t-il pas une dimension mythique qui colle à la peau du personnage qui fait que c'est un peu un ovni à la fois littéraire mais en termes de personnalité dans le milieu de la science-fiction.
Il y a beaucoup de fausses idées, je pense. Enfin, Étienne va pouvoir mieux répondre. Mais oui, le personnage est construit surtout sur des fausses idées. Et Norman aussi, qui l'a connu, sans doute pouvoir rétablir quelques vérités.
Oui, c'est vrai. À mon avis, Phil a détesté une chose comme ça. C'est une blague pour Phil, mais une mauvaise blague. Parce que, comme un mec, il est contre tout ça. Et ça, c'est par hasard, la chose avec Vallès, et particulièrement l'exégésis. Je prends récemment qu'à cette époque, Phil avait un problème avec sa main. Il parle dans un registre. Quand je ne vais pas une idée, c'est une chose, une technique commune pour des écrivains, de frapper random tout ça, blah, et c'est pas avec l'intention de publication complète. Et je crois que ça être l'exégésis. Autre chose, well, ok, c'est nécessaire, on comprend ça. Pour la plupart de son œuvre, Phil a écrit avec du speed, avec de l'amphétamine. Et parce qu'il a besoin de fric, et chaque livre, c'est pas beaucoup, il a écrit très rapide quelque chose nécessaire, l'amphétamine. Et après, puis les événements de Seattle, Vancouver, tout ça, il a quitté l'infirmerie pour travailler. Et a été en période difficile, Flow My Tears, et choses comme ça. Ça, c'est écrit sans ça. C'est une époque de transformation. Pour gagner la puissance, la possibilité d'écrire natural, whatever that means. Natural sans speed. Et l'exégésis et tout ça, je crois que c'est une relationship avec le problème avec le speed, avec la transmogrification dans un écrivain, dans un écrivain qui a créé finalement Timothy Archer. Alors, c'est, je crois que c'est le mythe de Phil Dick. Ça, c'est pas une bonne chose. Et Phil n'est même pas une chose comme ça. Il est contre cette idée anti-guru, anti-deal de machine, tout ça. C'est comme un roman de Phil Dick. L'histoire de Phil Dick, écrite par Phil Dick, c'est la réalité de la culte de Phil Dick comme ça. Et ça sera un bon film, mais c'est pas tourné encore.
On prévoit plusieurs grandes étiquettes faciles à caricaturer le personnage. Donc c'est Philippe K. Dick et la drogue. Mais ça, c'est Philippe K. Dick le fou, l'écrivain fou, et enfin Philippe K. Dick le mystique, hein, l'homme qui a vu Dieu. Si ce n'est que là, je pensais justement avec la publication de l'exégèse aux États-Unis et en cours de traduction pour une sortie probable l'année prochaine en France, ces enfants, les ayants droit, ont voulu qu'il y ait des universitaires, enfin que l'édition soit annotée, pour éviter justement la tentation que des gens prennent ça comme le texte d'un gourou et fassent la Dianétique tome 2. Ces étiquettes-là existaient déjà à l'époque. Il y a cette anecdote connue là, quand il est venu en France, à Metz, et qu'il était au restaurant, et qu'il y avait des petites pilules bleues à côté de son assiette, et il y a un fan français qui est passé, qui a pris les pilules et qui les a avalées. Il s'est tourné vers Phil Dick et lui a dit « Monsieur Dick, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais voir ?» Et Phil Dick lui a répondu « Ben, vous n'aurez pas mal à la tête. » Mais parce qu'en France, il y avait cette image-là de l'auteur contestataire californien qui défendait la contre-culture.
Oh, c'est une vraie histoire de Metz qui, je connais, il est... aussi récent, le fameux discours totalement fou qui était enregistré en vidéo existe. Un autre vidéo, peut-être la même vidéo, ça c'est le rehearsal. Ça c'est pas une chose qui arrive avec le pilule au fou. Il fait un rehearsal de cette, comme un grand blog. Et ça, c'est fait. Et si on dit à Phil, oh non, je ne sais pas. Il y a un grand geste comme ça. Trop cool. Il a mis le blog compliqué comme ça. Mais il a fait ça comme une nouvelle de l'écrivain Philip Dick. Délibérant. Délibérant. En effet, une sorte d'art, une sorte de jeu de personnage, jeu de théâtre, délibéré.
Vous pensez qu'on l'a pris trop au sérieux parfois et qu'on a négligé son humour, qu'on l'a, par exemple sur le discours de Metz, on l'a pris trop au sérieux, ce qu'il a dit.
Well, non, vice versa, on dit la réputation de Phil après Metz, c'est oh, le mec est fou, speed freak et tout ça. En France, à cette époque, je crois, c'est une idée de Phil Dick comme un écrivain personnage politique. Et c'est le grand intérêt de son politique. Et pour blog, Phil parle de Dieu, blablabla, rien de tout de l'expectation d'un discours politique ou sérieux comme ça. C'est un blog pour Phil. Je crois qu'après Metz, beaucoup de personnes disent le mec est fou, le mec est minable, mais il a fait ça parce qu'il ne voudrait pas donner l'image d'un mec politique, de son livre, c'est une chose primaire politique. Wow.
Oui, il y a des raisons qui expliquent enfin ce genre d'erreur. Enfin, lui-même nourrit, je veux dire, il utilise des techniques narratives et des manipulations de point de vue. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport à, sans vouloir dire que... C'est ce genre de technique, manifestement, où on peut très bien ne pas prendre tel ou tel ou tel personnage comme étant directement une image de l'auteur, particulièrement quand il fait des mondes qui sont très proches des nôtres, que quand dans une partie de son œuvre, il se projette lui-même dedans, quand il y a des figures d'écrivains. Donc, il y a tous les éléments dans son œuvre pour faire une erreur de base d'interprétation en littérature qui est « Ah, c'est l'auteur qui me parle ». Bah, pas de bol, chez Dick, plus que chez n'importe quel autre, ce sont des narrateurs qui nous parlent, y compris et surtout s'ils portent le même nom que l'auteur. Et je dirais, comme pour ces réalités, plus ça ressemble, plus c'est éloigné d'une manière générale. Donc il tend des pièges. Et le truc sur sa folie, bah, oui, il traite du problème de la folie. Oui, c'est un de ses thèmes, oui. Mais du temps aussi, mais d'énormément de choses. Et il y a un humour constant, il y a une ironie chez Dick qui est tout le temps là. Les romans les plus noirs sont les plus drôles. Et il y a toujours une distance par rapport à lui-même, et ne serait-ce que la narration multifocale. Cette idée d'avoir toujours des points de vue opposés, c'est une dialectique même qui, dans la structure narrative, il y a une dialectique qui remet systématiquement en cause ce qui est dit d'un personnage à un autre. Donc, déjà, aller penser que l'auteur est fou parce qu'il y a des personnages de fou, ça c'est une erreur d'interprétation de base, hein, c'est un problème de son ontologique, mais il a effectivement des techniques littéraires relativement raffinées de manipulation du point de vue et de manipulation du lecteur, qui fait que c'est pas étonnant qu'il y ait Smith qui se construise. Et puis après, il y a quand même le truc chez les fans de Dick, il y a cette idée de dickianisation de l'univers, hein, de réalisation intime de 1984, mais d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus personnelle, d'infection de notre imaginaire par un ensemble de choses.
Effectivement, moi je pense que Dick ne voulait surtout pas être pris pour un gourou, loin de là. Voilà, c'était une sorte de bricoleur, par hasard, parfois divin. Bon, mais il se voulait comme un bricoleur, une sorte de. Un moins que rien qui peut être génial. Voilà, c'est une sorte d'artisan touchant à la magie parfois par mégarde. Et c'est un peu comme ça qu'il se voyait et voulait surtout pas apparaître comme un mythe, un gourou, quelqu'un qui serait un grand influenceur. Et il a passé son temps à déjouer. Et dans ses romans d'ailleurs et dans ses interventions, ce qui pourrait le faire prendre comme une idole. Voilà, je veux dire. Hein. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue politique ou religieux ou quoi que ce soit, en fait. Hein. Et ça, je crois que c'est assez important ce côté. L'universel ne peut être touché qu'à partir du moment où on est dans le plus quotidien, le plus ras des pâquerettes. On est vraiment ras de terre, on a des personnages qui sont qui sont foireux, qui sont à côté. Mais c'est parce qu'ils sont foireux qu'ils peuvent toucher à cette magie, on ne sait comment. Et Dick était comme ça, quelque part. Voilà.
C'est un autre aspect du travail de Phil Dick. C'est dommage, presque unique, certainement pour la science-fiction. Tous les personnages, pour la plupart de la science-fiction, sont des capitaines de vaisseaux, héros de guerre, scientologues, blablabla. Mais pour la plupart, ce n'est pas de respect pour des personnages ordinaires, comme on fait le dépannage de la télé, on fait la petite bague comme un craftsman. Phil a créé beaucoup de choses avec un respect de personnages comme ça qui avant le respect pour son propre travail. Et ça, c'est très rare, certainement dans la science-fiction, mais aussi, je crois, dans la littérature en général. Certaines espèces de politique profonde, in a certain sense, mais pas politique politicienne. Tout.
Politique populaire.
Mais c'est dans ce sens-là qu'à une époque d'Internet, et ce qu'est Internet aujourd'hui, avec cette logique de sites comme Wikipédia, une logique où tout vient de rien et du moins que rien. On peut comprendre entre les logiques de virtualité, de monde virtuel, et ces logiques de politique sans politique, c'est-à-dire de gouvernement sans avoir aucun titre à gouverner quelque part, qui au fond est l'imaginaire du net, il y a de ça chez Dick, en fait. Et ça peut aussi expliquer pourquoi il continue à être totalement lisible, là où d'autres auteurs formidables peuvent à la limite l'être moins. C'est-à-dire le côté héroïque des personnages de Van Vogt, que j'adore, Van Vogt, personnellement, il est plus de ce monde, quelque part. Et Van Vogt, bon, Dick aimait beaucoup Van Vogt, mais en même temps, il a fait l'inverse dans ses personnages. C'était pas des héros. C'était pas des héros, des grands personnages, des grands scientifiques. Voilà, c'était pas ce voilà. Il a détourné. Il a contourné l'âge d'or, là, pour le coup. Hein. Il a été complètement en décalage.
Et avec une science-fiction qui n'est pas du tout dans la prospective. Ouais. Il ne cherche pas à imaginer la télévision du futur. Ses fusées, bah, et s'il a besoin d'une fusée, il y en a une. Mais il ne va jamais se poser la question de son fonctionnement ni de son utilité. Donc, c'est une science-fiction qui ne vieillit pas, contrairement à celle de Van Vogt, qui est marquée par son temps. Et en cela, il y a une esthétique qui continue à passer. Ces androïdes, ils ont des bandes perforées, des rouleaux, des engrenages, mais on ne se pose pas la question, on les accepte tels quels, parce qu'ils ne se compliquent pas la vie à vouloir nous persuader qu'ils fonctionnent et qu'ils sont réels.
Et d'ailleurs, les machines de Google s'appellent Nexus. Oui. Voilà, comme le Nexus 6, qui est le répliquant donc de Blade Runner. Et Google, donc son système d'exploitation s'appelle Android. Tiens, c'est assez étonnant quand même. Ils font des Nexus. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt des Android de notre poche. Voilà. Voilà. À moins qu'ils soient déjà là, peut-être.
Et puis il y a aussi une visée littéraire aussi. Ils voulaient avoir des personnages qui aient la même cohérence, la même profondeur en littérature générale qu'en science-fiction. Et son idée même de l'androïde parfait qui ne se sait pas androïde lui donne une solution littéraire géniale. C'est-à-dire que plus le personnage de l'androïde s'exprime exactement comme un humain, moins il est différent des autres personnages autour, mieux il réussit ce qu'il est en train de faire. Et il y a d'ailleurs pas mal de récits, que ce soit les nouvelles ou romans, qui reposent exactement là-dessus. Et son apport aussi, c'est l'androïde. Si on voulait prendre des apports dans les thèmes chez Dick, il y a l'androïde qui ne se sait pas androïde et qui découvre sa nature. Et pour reprendre sinon un autre grand thème qu'il a repris à sa sauce, qui est le voyage dans le temps, mais relatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Wells. Il n'y a pas quelqu'un qui invente un truc qui lui permet de se déplacer dans le temps en bougeant un truc. Non, en général, c'est le temps qui se déplace et ce mouvement est totalement subjectif.
Je crois que pour Phil, la question d'Android contre humain, c'est une question morale. C'est le moral, bien, ça c'est l'essence humaine. Et si un Android gagnait c'est un niveau de conscience, ça c'est un vrai humain. Même, il m'a dit une fois, quand il fait les recherches pour Chateau, il a lu une lettre écrite par un mec qui était un garde de la camp de concentration qui à sa femme, et il a dit: j'ai un problème pour dormir par le cri de la petite garçon, et ça, comme ça. Mais pas parce que c'est un cri de désespoir. C'est seulement le bruit. Et Phil m'a dit, quand je lis ça, je comprends que c'est beaucoup de créatures avec nous, avec le corps humain et tout ça, mais pas humain, à le niveau moral. Caritas. C'est les choses pour Phil. Et le fun de Blade Runner, c'est un scène qui n'existe pas dans le roman. Quand l'android était en course de tuer Decker, mais la fin de son vie arrive et il trouve Decker et ne tue pas. Et ça, c'est un scène dans le roman. Mais Phil, qui a vu le rough cut, m'a dit: ça, c'est le vrai message de le livre.
Ouais, ça, c'est très important de prendre les androïdes comme des métaphores, en fait. Voilà, ils s'en servaient comme ça. Et c'est l'empathie qui définit qui est humain. C'est une autre des grandes thématiques de Dick. Qu'est-ce qui est humain ? Et l'androïde n'est qu'une métaphore pour ça. Il trouvait des brins d'humanité. Il explique quand il est à propos de substances mortes, donc il vivait avec des jeunes drogués apparemment, et il expliquait, je sais plus exactement l'anecdote, mais je crois que un drogué avec le cerveau complètement cramé, qui réagissait plus, s'est occupé je crois d'un chat, ou s'est occupé a fait preuve d'empathie envers un petit animal, et Dick s'est dit voilà, c'est ça l'humanité, quoi. Il a plus de cerveau, mais il y a quelque chose en lui qui le fait agir comme un véritable être humain. C'est un véritable être humain.
Non, c'est l'anecdote, je parlais des, ouais, il avait cette métaphore des insectes aussi pour ceux qui étaient tellement loin en fait dans la dégradation liée à la prise de drogue, qui étaient qui n'avaient plus que des actions répétitives. Et justement, où il disait, ouais, voilà, qu'une journée, il avait vu deux junkies qui passaient leur journée à ne rien faire et passaient des heures. En fait, je crois que le chat avait essayé de traverser une fenêtre qui était cassée et il était en train de saigner. Et ils ont passé des heures à le dégager, à essayer. Et il a mis d'ailleurs en partie, on retrouve la transcription de ça dans Scanner Darkly, avec l'anecdote qui parle justement de ce qu'il appelle les straights à ce moment-là, ce qui ne correspond pas vraiment aux bourgeois, mais on va dire aux gens normaux. Les personnages donc qui eux sont des représentants de la contre-culture, ils ont cette formule qui pour eux représente exactement cette manière de penser qui n'est pas empathique mais qui est représentative d'une certaine paille, qui était si j'avais su que ça ne pouvait pas me faire de mal, je l'aurais tué moi-même.
Et ça c'est le bug dans la machine, hein, c'est-à-dire que en fait l'enjeu c'est la programmation, mais la programmation de la machine, la programmation de l'humain, la programmation même du divin. Je veux dire, dans tous les cas, il s'agit qu'il puisse y avoir un bug, qu'il puisse y avoir une façon d'aller contre la programmation ou sa propre programmation. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu majeur de l'empathie. Et seule l'empathie permet cette déprogrammation. C'est en gros, effectivement, la clé du côté dans les univers de Dick. Hein. Cette déprogrammation de qui que ce soit, nous-mêmes étant programmés, tout comme peut-être les dieux de l'Olympe. Ou la MIB de Ganymède, qui effectivement est un personnage assez formidable de quelques romans de Dick.
J'aime beaucoup cette remarque là en disant que la capacité d'un adolescent à faire exactement l'inverse de ce qu'on lui a demandé de faire pour aucune raison valable ou logique ou compréhensible est la garantie même de notre liberté.
La programmation dont tu parles, c'est le destin dont parlaient les Grecs dans l'Antiquité. Quoi. C'est la même chose.
Je fais une... Un autre pan de Gavid, enfin, un autre pan de la connaissance de Dick par le grand public, c'est le cinéma. Il y a de plus en plus d'adaptations de Philip K. Dick qui sont en cours de production, qui sont sorties récemment. D'où vient l'intérêt des scénaristes ou des boîtes de production d'adapter Philip K. Dick au cinéma, particulièrement?
C'est une histoire ancienne. Blade Runner, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Le premier à avoir tenté de l'adapter, c'est un jeune cinéaste new-yorkais qui s'appelait Martin Scorsese, qui à l'époque n'avait pas encore fait de film et qui avait pensé prendre une option sur le film. Blade Runner, c'est une histoire de plus de 10 ans avant que le film apparaisse véritablement sur nos écrans. Mais bon, pour revenir à ta question, c'est un corpus de 12 films. Donc on peut vraiment parler d'un cinéma dickien, parce que maintenant, il y a un corpus constitué, quand même, qui peut être analysé en tant que tel. Mais avec un brin de cynisme, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a beaucoup de films, il y en aura encore d'autres qui sont adaptés de Dick, d'une part parce que ça fait de l'argent, et d'autre part parce que on peut résumer, comme ils disent, on peut donner un pitch en une phrase. On peut donner on peut résumer un film adapté de Philip K. Dick très rapidement. Et ça, je suis sûr que les producteurs hollywoodiens apprécient.
Oui, là, c'est vrai que quand on arrive dans les adaptations cinématographiques, on passe dans une industrie. Il faut bien voir donc les raisons pour lesquelles les films se multiplient à partir d'un même auteur sont très différents, voire complètement détachés du succès que peut avoir cet auteur lui-même. Quand Blade Runner arrive, il y a pas mal de tentatives avant pour l'adapter. Dick a un avantage énorme en termes d'adaptation science-fictionnelle. La science-fiction au cinéma, c'est cher. Dick, c'est moins cher. Non, mais déjà, première chose très simple, un androïde dickien, un androïde parfait, c'est un acteur qui n'a strictement rien de différent des autres. Et donc déjà ça, c'est super pour un producteur. Et donc il y a Blade Runner qui arrive, Blade Runner donc qui se plante. On va bien voir que le succès de Blade Runner, c'est un succès rétrospectif. Le film équilibre ses comptes, c'est pas une catastrophe, mais le film va connaître une pérennité après coup. D'ailleurs, la première fin de Blade Runner qui sort à l'époque, ce sont des rushs de Shining donc à la fin, parce qu'ils font une projection test et ils ont 50% de gens contents, 50% de gens pas contents. 50% pour un producteur, c'est pas du tout assez pour un retour sur investissement, ça va pas du tout. Donc il faut une happy end. Donc on a une happy end génialement sexiste, une des meilleures, hein. C'est une femme parfaite, elle ne peut pas vieillir, pas mourir, elle va lui dire oui, enfin c'est génial, avec éventuellement la possibilité que lui aussi soit un androïde, donc vous pouvez tous les deux aller folâtrer dans la nature, c'est super. Mais ce qui se passe à ce moment-là, effectivement, on a la formation d'un cinéma dickien, d'un sous-genre de la science-fiction qui est un mélange et qui est là, et du Harry Dley Scott, mais qui est aussi dans ce qu'aime Philip K. Dick au départ, de noir, voilà, d'un futur noir, avec tous les codes du noir très appuyés, que Ridley Scott, en fait, reprend la tradition du noir cinématographique et les réinjecte sur l'histoire de Philip K. Dick, qui donc est très très simplifié. Le premier script qui avait été fait par le premier auteur, en fait, avait été écarté parce qu'il était trop science-fictionnel, trop bavard, ça n'allait pas marcher. Et ce que voulait Ridley Scott, c'était une enquête. Il voulait un film noir. Et c'est resté en latence pendant un petit moment. Et les deux premières adaptations, en fait, nous ont fait les deux sous-genres des adaptations Dickens qu'on a encore. C'est d'un côté la SF noire, qui jusqu'à aujourd'hui, c'est encore les codes de la SF sérieuse. On a la SF pas sérieuse, on a le space opera. On a la fantasy dans l'espace, on a Star Wars. Quand on veut faire de la SF sérieuse, il faut que ce soit noir. Et ça se voit de manière très simple. Il faut que le soit bleuté, il faut qu'il y ait les mêmes questions philosophiques qui reviennent derrière, de manière parfois ridicule, jusqu'à Prometheus. On va avoir, pas un autre moment. Mais il faut une esthétique noire, etc. Et le deuxième, en fait, qui manque sa mort, c'est Total Recall. Et là, on a la création d'un truc génial qui est le film d'action d'Ikien. On peut se dire, c'est pas possible. Eh bien, si. Et ils en ont fait plein derrière. Faut pas hésiter. Paycheck, on a quand même une adaptation de Philip K. Dick par John Woo. Fallait l'oser, celle-là. Et ils l'ont fait. Pas de souci. Et j'ai ce qui est assez étonnant dans ces adaptations, c'est qu'autant Blade Runner est un film sublime en tant que tel, beaucoup plus finalement que comme un... Enfin, c'est pas du tout le roman de Philip Dick, on est d'accord, quoi. Le film est très bien en tant que film et c'est sa grande force. J'adore Total Recall parce que c'est un film de Paul Verhoeven. Et que c'est un film génialissime. Le dernier qui a été fait, on est d'accord, c'est juste une grosse bouse commerciale très bien produite, mais sans aucun intérêt, quel qu'il soit. Mais alors, il faut savoir un truc quand même sur les dernières adaptations qu'on va avoir là, c'est que les filles de Philip K. Dick ont récupéré tous les droits. C'est-à-dire qu'après notamment, et pourtant Planète Hurlante, que moi j'aime beaucoup, qu'une des filles de Dick a détesté, elles ont donc récupéré dans Electric Shepherd tous les droits. Et donc, pourquoi ils ont fait un Total Recall? Parce que l'option du film avait déjà été achetée et que donc entre studios, ils ne pouvaient pas prendre l'option sur un nouveau bouquin ou une nouvelle, mais par contre, ils pouvaient faire un remake du film dont l'option avait déjà été achetée. C'est pour ça qu'on a eu ça. Quand on prend Next, c'est pareil. Next, c'est une des multiples manières dont Nicolas Cage paye ses dettes de jeu et de bar. Et donc, on n'a rien à voir avec la nouvelle initiale, on a juste un petit truc. Et il y a des clichés maintenant qu'on a à propos de ça. Mais j'ai tendance à dire que les films les plus dickiens sont pas des adaptations officielles de Philip K. Dick. Pour moi, on a L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam, qui est peut-être le film plus dickien, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est une merveille, et les adaptations inofficielles ou les gens qui adorent ça, comme Richard Kelly. On a déjà ça en partie dans Donnie Darko et dans Southland Tales. Là, si on veut une transposition de valise et de ses procédés, de ses décalages génériques, ouais, là on les a réellement.
J'ai juste un truc qu'il faut rajouter peut-être, c'est que notamment dans les nouvelles de Dick, il y a des idées, ça rebondit sans cesse. Pourquoi aussi Hollywood aime bien, il y a un film vraiment pas terrible, tu n'as pas cité, c'est L'Agence. La nouvelle de départ est absolument géniale, puisque en fait, c'est des interventions divines dans le monde réel, et ça se retourne sans cesse. Et en gros, les Hollywood adorent Dick parce que ça leur permet de raconter une nouvelle fois une histoire d'amour totalement niaise, avec un a priori qui fait qu'on a le sentiment de ne pas l'avoir déjà vu. Alors que c'est exactement la même chose. Et c'est l'un des points aussi qui est majeur. Et après, oui, tu as raison. Après, il y a des tas de films pas faits par Dick. Moi, je pense à Existence ou Bienvenue Mr. Chance de Hal Ashby, qui sont des films qui, voilà, où on retrouve cet esprit, cette incertitude et cette manière de ne pas enfermer celui qui voit dans un sens interdit. En gros, c'est pas de la pub. Voilà, bon. Alors qu'il y a effectivement beaucoup de films d'après des scénarios de Dick qui ne sont que de la pub.
Et ça, on parlait d'une qualité de Dick et son inventivité, son jeu avec la langue, son jeu avec le médium. Donc un film, si on voulait dire Dickien au sens noble, c'est effectivement un film qui reprend ses problématiques, mais de la part de quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a envie de jouer avec le médium. Et le côté, ce que j'appelle moi la Dixploitation à côté, donc l'idée de mettre du noir sur de la SF pour la rendre sérieuse, regardez le dernier Terminator, regardez le 4. On va pas refaire du film d'action. Non. On va mettre un androïde qui ne se sait pas androïde. Et puis la photo, on va la changer. On va mettre un bon filtre, histoire qu'on soit sûr que c'est du noir. Et en fait, on va retrouver par touche comme ça, d'exploitation un peu partout.
Il y a Scanner Darkly, qui par son mélange de dessins animés et d'acteurs en prise réelle est une belle adaptation. Et sinon, il y a l'adaptation de Radio Libre Albemuth, qui est là une superbe adaptation du roman, avec un tout petit budget, mais qui justement permet de libérer la créativité et de dont Laurent s'amuse parce que je dis toujours que le budget de Radio Libre Albemut, c'est une seconde d'Avatar. Voilà. Et c'est voilà un tout petit film, mais qui arrive à capturer justement la fragilité et la beauté des personnages de Philippe K. Dick. Et ça montre qu'il est encore possible d'adapter l'auteur en essayant de transposer à l'écran avec amour et respect l'œuvre.
De toute façon, les filles veillent au grain, là, hein, enfin. Elles ont vraiment verrouillé hein, pour l'instant. Donc, a priori, elles vont avoir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elles ont verrouillé et que les films qu'elles détestent le plus, c'est les adaptations que je trouve les plus réussies. Mais bon, on verra après ce que ça donne. Une question de goût, là.
Comme il reste 5 minutes, je me demandais si le public avait des questions.
Bonjour. Alors, j'ai une petite question. Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Vous avez parlé de L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam comme une adaptation des romans de.
Enfin, pour moi, et c'est perso, c'est le film le plus dickien qui ait jamais été fait. C'est absolument pas une adaptation. À part que Terry Gilliam est un fou de Philippe K. Dick.
D'accord, parce que pour moi, c'était vraiment une réécriture de La Jetée. Enfin, c'est.
Et Gilliam affirme qu'il n'a jamais vu La Jetée avant de faire L'Armée des Douze Singes. Que David. Alors, David Peoples. Écrit l'adaptation de La Jetée. David Peoples, c'est l'auteur du scénario de Blade Runner qui a été tourné par Ridley Scott. Donc, on a Terry Gilliam qui est un fan absolu de Philippe K. Dick. On a de l'autre côté David Peoples qui est aussi un fan de Philippe K. Dick et qui est l'auteur de la SF noire. Et on a cette collusion qui fait que. Alors après, est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant ce que dit un auteur ou un cinéaste de ce qu'il a vu ou pas vu ? J'en sais rien, je ne suis pas dans la tête de Terry Gilliam. Ceci dit, lui affirme que lui a travaillé à partir du script de David Peoples, qu'il a remanié, mais que lui n'avait pas vu l'acheter. Ce qui est extrêmement bizarre, hein. Je pense qu'il mentait.
Mais alors, j'ai vu une interview de Terry Gilliam, justement, dans le DVD de La Jetée, où il expliquait qu'il avait vu le film, mais il l'avait vu en français pour ne. Selon lui, les images suffisaient à comprendre. Mais que c'est après qu'il a eu l'idée d'écrire L'Armée des Deux Singes.
C'est pas lui qui l'a écrit.
De le réaliser.
C'est pas lui qui l'a écrit.
D'accord.
Bonjour, moi j'ai une petite question. Je me demandais en fait, je connais pas très bien Philippe K. Dick et je m'intéressais sur ses influences. Mais en prenant le thème central dont vous avez parlé, le rapport entre la réalité et le virtuel, chez quel auteur il a pu puiser de manière évidente, je ne sais pas, un peu avant lui, en littérature générale ou en Joyce, ça me paraît pas mal. Moi, il y a un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, il s'appelle Alfred Bester. Et dans ses romans, il y a déjà ce travail sur les mondes virtuels, un peu le rêve, etc., qui peuvent être pris pour la réalité. Je ne sais pas si vous avez. Donc, des influences de Dick sur cet aspect central.
Dans les références qui citent le plus. Je vais parler des références hors science-fiction. Tiens, je vais laisser mes camarades science-fiction. Dans les références énormes pour lui, on a assez évidente Saint-Augustin, Spinoza, Descartes, Kant. Grosse base. En littérature, il se réclame de Flaubert, il se réclame d'auteurs francophones, d'auteurs japonais. Le meilleur livre de la Terre pour lui, c'est Finnegan's Wake de James Joyce, qui est le livre le plus illisible de la Terre. Il a tellement lu que ça c'est difficile. Et à côté de ça, c'est un énorme lecteur de science-fiction boulimique. Notamment Van Vogt, mais je laisse mes camarades parler, parce que j'ai.
Je ne crois pas qu'on puisse pointer tel ou tel auteur qui serait une inspiration directe.
Je ne voulais pas pointer, c'était vraiment est-ce que, enfin, des auteurs qui auraient traité déjà cet aspect de la virtualité qui vient vraiment à l'intérieur de la réalité, quoi. Quelque chose de très dickien. Est-ce que,
je pense à Daniel F. Galouille avec Simulacron 3, qui est un roman totalement dickien, pas écrit par Philippe K. Dick. J'en ai donné un à vous.
Non, mais après, il a. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il a été, il a inspiré des tas de gens, il a inspiré le cyberpunk, il était proche des gens de la New Wave, etc. Et pourtant, il est né avec l'âge d'or et il y a des nouvelles de Dick où il met en scène Poul Anderson, il met en scène des tas d'auteurs, en fait, donc de son époque des débuts, hein, années 50. Moi, je crois que, justement, il y avait quand même, y compris dans l'âge d'or, des tas de... Voilà, c'est pas univoque. Je veux dire, si on prend le monde des non-nades von Vogt, il y a un côté qui est tout sauf dickien, qui est ce côté héroïque, mais il y a aussi la machine qui déraille, il y a aussi des éléments, en fait. Donc je crois qu'il y a, chez Poul Anderson, chez Heinlein, chez von Vogt, des éléments qui ont pu lui parler, mais il les a complètement recréés, quoi. Il en a fait autre chose, avec un regard totalement différent. Hein. Donc c'est comme s'il les avait digérés pour les oublier, en fait. Mais en même temps, ils sont là. Je veux dire, quand on relit von Vogt, Heinlein... ou Poul Anderson, il y a le côté anti-pub de Poul Anderson, etc. Bon, ben il y a des éléments qui sont voilà qui sont partout, mais en même temps voilà après il y a sa parano quoi, hein, il y a ce parano permanente, cette hantise du contrôle à la fois de la société et de l'individu, et ça bon ben voilà il a pu en piocher des bribes à droite et à gauche.
Du fait des autres conférences qui avancent, on va s'arrêter là. Je suis désolé si vous aviez des questions supplémentaires. Je vous souhaite une bonne fin de festival et une bonne journée à tous.